Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Copéglon, votre magazine 100% OGC Nice sur BFM Nice Côte d'Azur. La passe de 20, la 20e défaite de la saison du GIN, toute compétition confondue. La dernière en date, c'était hier face au Stade Rennais, 4-0 à l'Alliance Riviera. L'OGC Nice qui continue sa saison cauchemardesque avec son 7e match de suite sans victoire à domicile en Ligue 1 et qui peut remercier Auxerre, Nantes et Metz de ne pas avancer. Les barrages sont maintenant à 5 points. C'est à nouveau l'état d'urgence au gym pour nous en parler ce soir dans Copéglon. Un habitué, Naninho, supporter de l'OGC Nice qui est avec nous. Salut Nico.
Salut Sam, bonjour à tous. Content d'être avec vous malgré une nouvelle défaite.
Ouais, c'est vrai, on a l'habitude. Hein, cette saison. Sébastien Riglet est avec nous également, journaliste ici à Azur. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. On va essayer de retrouver le sourire.
Et vous étiez à l'Alliance Riviera hier. Vous commentiez le match pour ici Bretagne.
Ici Armorique, ouais. Armorique. Donc j'ai essayé d'avoir un peu le sourire dans la voix, mais c'était quand même compliqué.
Mais c'était pas facile, effectivement. Voilà. Et puis, invité d'honneur ce soir, c'est Marco Simone, ancien joueur de OGC Nice d'ailleurs. Bonsoir Marco.
Ancien niçois,
effectivement.
Pas pour longtemps, mais...
4 mois, c'est ça, au gym en 2004. Racontez-nous un petit peu cette période. Vous avez des bons souvenirs de ces 4 mois passés
Des très bons souvenirs. Et c'est vrai que quand je pense à ma carrière à Milan, ça représente les périodes plus longues. Après Paris et Monaco, mais Nice, ça fait partie des amours que j'ai eu dans le football. Donc même si ça durait 4 mois, j'ai vraiment apprécié cette période-là. Je pense d'être un peu un défaut par rapport à les supporters de Nice et à toute l'ambiance parce qu'ils attendaient beaucoup plus de mon apport. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans une condition mentale, c'était pas cela de Marco Simone.
Vous aviez arrêté avec la tête, c'est ça que vous me disiez?
Oui, j'avais arrêté avec la tête. Le président Cohen m'avait appelé après pratiquement 6 mois où j'avais arrêté de jouer pour donner un coup de main dans cette période où le Nice jouait... forcément le maintien. Et donc, j'avais accepté avec plaisir. Et déjà, à Nice, ça reste quand même un très beau club de Ligue 1. Ça représentait quand même l'ambiance à l'italienne, les supporters. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc, j'ai un petit regret par rapport à ce que j'ai pu donner vraiment à les supporters de Nice.
Et Marco aussi, c'est un joueur de Claude Puel à Monaco entre 1999 et 2001. On aura l'occasion d'en parler, Marco, au sommaire de cette émission. Première partie dédiée évidemment au débrief de ce Nice-Rennes et de cette claque 4-0. La deuxième partie, les top flops d'un côté et puis le reste, le focus, il sera spécial maintien. On avait entrevu du mieux avec Claude Puel la première mi-temps de Lyon, vous en souvenez, le derby, la victoire à Nantes ou encore la Coupe de France. Reste qu'au niveau comptable, ça ne va toujours pas mieux. Les deux dernières prestations laissent même présager le pire sur cette fin de saison, notamment dans l'envie et dans l'implication. Messieurs, je vais vous poser la question dans quelques instants. Vous n'y échapperez pas et c'est tout simplement la fin de l'effet Puel. Les invités en débattront dans ce 28e épisode de la 5e saison de Copéglon. A tout de suite. On va commencer par débriefer ce Nice-Rennes en prenant tout de suite la direction de l'Alliance Riviera et les images de ce match comptant pour la 25e journée de championnat. Florilège de buts finistériens ce soir, vous en doutez, a commencé par l'ouverture du score signé Esteban Lepol qui devance l'intervention de Kodjo Pepra Opong. Tout est très facile pour les Rennais qui vont doubler la mise par cette frappe déviée de Sébastien Szymanski. Ludovic Blas fait ce qu'il veut dans le camp niçois et offre le troisième but à son équipe. Nordan Mukiele va compléter le travail sur cette magnifique frappe. Score final 4-0. Vous l'avez vu, cette scène avec les supporters et les joueurs en fin de match. Nico, j'ai envie de dire, l'heure est redevenue grave et même très grave.
Ouais, mais cette scène, elle veut tout dire. Tu prends une nouvelle débâcle à domicile, il n'y a personne qui ose aller voir les supporters. Moi, j'ai souvenir de la situation à Lyon où quand ça n'allait pas, les joueurs, ils allaient d'eux-mêmes vers les supporters s'expliquer et assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a que Dante qui est allé, le reste du groupe est allé à reculons. Donc ça veut tout dire, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Aujourd'hui, on a suffisamment tiré la sonnette d'alarme, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Quand on regarde la dynamique des clubs qui sont derrière nous, comme Auxerre, moi je suis très 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 inquiet pour le maintien, parce qu'on ne voit plus rien du tout dans cette équipe.
Sébastien, on le disait, on se disait hier au stade à la mi-temps, on se disait il n'y a rien. Et malgré quelques occasions en deuxième mi-temps, c'est le niveau du gym qui devient de plus en plus inquiétant, pour reprendre les termes de Nico.
Ah ouais, c'est très très inquiétant, et on voit que Claude Puel, il est en grande difficulté déjà pour construire un 11. Il n'a personne devant, obligé de mettre Sofiane Diop en avant-centre, vraiment c'est pas son poste habituel. On voit après qu'il fait rentrer, on en reparlera tout à l'heure peut-être, mais de Kevin Carlos, enfin là c'est le néant devant. Au milieu de terrain on ne se retrouve pas, on a une défense centrale très jeune également, un Melvin Barre aux abois, et puis un gardien de but qui finalement Claude Puel ne veut jamais trop nous dire je vais mettre celui-là, celui-là, mais à l'arrivée on n'a pas un joueur vraiment installé qui est capable de donner des vraies consignes à ses défenseurs parce que ça tourne tout le temps. Ouais, c'est une situation très compliquée, et je rejoins un petit peu ce qui a été dit, je suis un petit peu inquiet pour la suite de la saison, parce que voilà, les équipes de derrière ne sont pas si loin.
Ouais. Ouais, la situation est compliquée, vous l'avez dit Sébastien, on le dit, l'OGC Nice a 24 points, c'est notre premier chiffre du soir, 24, le pire total de points pour l'OGC Nice depuis la saison 2011-2012, après 25 journées, saison du changement de coach Eric Roy, René Marsilia. Le gym avait finalement terminé 13e. Marco, l'OGC Nice, on s'en souvient, 4e l'an passé, qui a débuté sa saison en août avec un tour préliminaire de Ligue des Champions, se retrouvait à 5 points de la place de barragiste avec des joueurs pas préparés aussi à ça. Vous nous confirmez, c'est encore plus dur quand on se retrouve dans cette saison comme ça, où finalement on doit jouer le maintien.
Forcément, parce que dans la tête des joueurs, dans la tête du club, les supporters aussi qui sont là pour pousser l'équipe, et on a une autre attente. Et donc forcément, quand tu rentres dans cette spirale, que ça dure depuis longtemps, sauf des petites périodes, et voir aussi l'effet des Claude quand je viens d'arriver, c'est très compliqué à niveau mental. Et moi je pense que c'est pas une question de caractère, c'est une question que là, quand tu commences à changer les entraîneurs, quand les résultats n'arrivent pas, et repartir à construire un projet aujourd'hui par rapport à la situation, c'est très délicat, c'est pas évident. Donc c'est vrai qu'à un certain moment il faut que les joueurs, et moi je pense qu'ils ont quand même du caractère, et ils doivent vraiment se mobiliser pour trouver la meilleure solution, mais que ce n'est pas forcément de montrer une idée des jeux ou des beaux jeux, mais c'est mettre vraiment dans la tête que chaque match, un point, c'est nécessaire pour se sortir.
Et être efficace aussi dans les matchs qui restent. 4-0, on l'a dit, score final, Nico, mais c'est vrai, on peut le dire, ça aurait pu faire 5-0, 6-0, notamment en première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'autres occasions aussi pour le Stade Rennais.
C'est ça, en fait, dès qu'ils ont accéléré, on a l'impression qu'ils pouvaient marquer sur chaque contre-attaque, sur chaque ballon qui passait la ligne médiane. C'est les mêmes faiblesses qu'on retrouve depuis le début de saison. J'avais l'impression de voir l'équipe de Francaise il y a 6 mois qui avait complètement lâché, qui était au moindre petit obstacle, perdu et déboussolé sur le terrain, sans leader. On fait rentrer Dante à 42 ans qui n'y arrive plus et qui essaye d'y aller parce que voilà, il a peut-être l'amour de ce club et quelque chose en plus par rapport aux autres, mais ça suffit plus.
Ouais, Claude Puel qui dit en plus que c'est une équipe clinique en face de Rennes. Moi, j'ai pas trouvé l'équipe de Rennes clinique. En fait, elle a pas eu 4 occasions, 4 buts. Il y a eu d'autres occasions, et puis ils auraient souvent été dans la surface. Il y a eu ce pénalty arrêté par Yevan Diouf. Non, Rennes n'a pas été que clinique. Rennes a été déjà avec la possession du ballon, a eu toutes les occasions quasiment. Non, c'est vraiment, il faut. Je pense que Claude Puel est un petit peu sous-estimé. La sous-performance, la contre-performance de son équipe en conférence de presse hier.
Moi, j'avais même l'impression de voir une équipe qui avait en préparation peut-être 3-4 semaines d'avance sur son adversaire. J'ai senti les Niçois rincer physiquement au bout de 30 minutes. C'était un sparring partner, l'OGC Nice hier, et Rennes s'est régalé.
Marco, vous avez joué le maintien à vos débuts à Com en saison 89-90, pas le Com actuel hein, qui est la bonne surprise de cette Serie A. Comment ça se passe quand on est joueur, on joue le maintien? C'est une approche mentale aussi, j'imagine, qui est différente.
C'est une approche mentale, mais moi je me souviens très bien de cette période-là parce que j'étais jeune en plus. Donc je me retrouvais dans un groupe des joueurs âgés, expérimentés. Et il y avait un caractéristique fondamental, c'était le noyau de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y avait 5, 6, 7 joueurs d'expérience qui avaient vraiment la qualité de jouer les championnats pour le maintien, parce que comme moi à l'époque, c'était... Et donc ça, c'est fondamental dans l'équipe. C'est-à-dire les 4, 5, 6 joueurs qui ont cette expérience et qui savent comment gérer cette période de difficultés, surtout psychologiques, sont fondamentales dans l'équipe. Donc aujourd'hui, je sais pas la condition de dire que je sais ni s'il y a ça. Et c'est sûr que si on n'a pas cette structure à l'intérieur de l'équipe même, mais au-delà de l'entraîneur, ça peut être compliqué parce que c'est difficile de s'en sortir, parce que les joueurs, ils pensent encore peut-être à pouvoir faire une belle saison individuellement ou collectivement parce qu'il y avait des projets derrière. Et donc, ça risque d'accélérer cette descente, vu que derrière, il y a des équipes qui, mentalement, elles sont plus armées pour jouer le maintien.
C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Vous parliez de joueurs d'expérience qui doivent aussi accompagner ces joueurs. Dante en fait partie. Il a eu des mots très forts en zone mixte après la rencontre. On va l'écouter tout de suite.
On a essayé des choses. Après, c'est clair, encore une fois, quand ça te manque de confiance, c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour retrouver la confiance, il faut travailler très dur. C'est la seule chose qui va nous redonner la confiance. Rester ensemble, on va y rester ensemble.
Des gens fautifs qui sont encore là, à votre avis, vise qui, Nico?
J'ai pas envie d'accabler qui que ce soit en particulier.
Florian Maurice?
Sûrement Florian Maurice, qui est responsable aussi d'une partie du recrutement. Après, je pense que quand on est dans une situation pareille, il n'y a pas un responsable. Tout le monde est responsable à son échelle. Quand il faut faire on parle souvent du le groupe vit bien, c'est l'expression qu'on retrouve beaucoup dans le football, et aujourd'hui j'ai pas l'impression que le groupe il vit bien. Quand il faut faire le petit pas ou la petite course supplémentaire pour compenser la perte de balle du copain, y a personne qui l'a fait. On prend 4 buts à domicile, j'ai vu personne se révolter sur le terrain, ne serait-ce qu'aller mettre un coup à un moment donné, quitte à prendre un carton jaune, mais montrer un peu l'écrou, montrer qu'on est toujours prêt au combat. Y a personne qui le fait, on accepte la situation comme si c'était devenu une normalité.
Mais surtout que là, dans cet extrait on l'entend pas, mais il dit que les joueurs vont devoir pendant un peu plus de 2 mois vivre football, que football. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le groupe, il ne vit pas football complètement et que on a peut-être tendance à penser un peu à autre chose, à ne pas vivre 100% au GC Nice. Et je pense que c'est plus collectif qu'une personne en particulier, qu'un joueur en particulier. Quoi.
Puis il ne faut pas se leurrer. Je pense que Dante, aujourd'hui, il n'est plus écouté au club. Je pense que son absence a fait beaucoup de mal aussi, au-delà du terrain, au groupe. Il a plus cette crédibilité, j'ai l'impression, malheureusement.
Après les épisodes de Lorient, c'est ça?
Après plein d'épisodes, je pense qu'aujourd'hui, Dante, ça m'écœure qu'il puisse finir sa carrière sur une saison comme celle-ci. Et je comprends pas comment des jeunes joueurs ou moins jeunes ne peuvent pas se servir de son expérience, d'avoir un homme comme celui-ci au sein du club, et ne pas s'en servir pour progresser, ne serait-ce qu'individuellement.
Mais il est vraiment affecté, en tout cas, ça c'est sûr, et il l'a dit, ça serait la première fois de sa carrière qu'il redescendrait, qu'il serait relégué avec un de ses clubs. Enfin, ça n'est jamais arrivé apparemment, et on sent vraiment de la tristesse, de l'émotion, presque des larmes quand il parle, quoi. Vraiment, il est touché, quoi.
Ça, c'est sûr. Pas, ça c'est sûr.
Marco, 42 ans, Dante, 10 ans passé à l'OGC Nice, il est sous les couleurs du gym depuis 2016. Ça ressemble un petit peu à la saison de trop, et c'est le risque aussi quand on est joueur de vouloir aller prolonger un petit peu l'aventure alors que malheureusement la saison va se terminer peut-être très mal.
Ça peut être la saison de trop si effectivement on n'arrive pas à impacter sur le groupe, donc c'est ça, dire aujourd'hui Dante, ça ne doit pas être la référence autant que joueur titulaire et donc compter forcément sur ses performances, mais ça doit être une référence dans les vestiaires par rapport à la conduite et qu'il doit avoir les groupes en général, pas seulement les jeunes, parce que moi ça me fait toujours sourire quand j'entends des déclarations en disant il faut penser que le football. Et moi personnellement je pense au football dès que je me réveille jusqu'à quand je vais dormir. Donc c'est toujours un peu facile de dire ça ou penser à ça. Dire, si les joueurs ne sont pas vraiment des dons à quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail mais une passion, c'est déjà compliqué. Non, après que chacun il a sa vie quotidienne, ça c'est une autre chose, mais honnêtement, quand tu es des dons, tu es passionné, tu penses tout le temps au football, alors encore plus là, quand tu es dans une situation comme ça. Et c'est quand même dommage quand je vois les images entre les supporters et les joueurs, que les joueurs ils n'arrivent pas à apprécier les supports qu'ils peuvent te donner aux supporters, parce qu'il faut avoir aussi l'humilité de se rapprocher, échanger, pour avoir plus qu'un soutien, non, avoir quand même une énergie que les supporters, au-delà de tout, sont là tout le temps à donner.
On l'a bien compris, Marc. On va passer à la deuxième partie de Copéglon, tout de suite avec les top flops et le focus. Restez bien avec nous. Retour sur le plateau de Copéglon pour analyser cette claque reçue par le Stade Rennais hier. 4-0 avant de passer au top flop. On va vous remontrer la composition, le 11 de départ de Claude Puel. Le coach du gym avait tenté plusieurs choses hier. Sofiane Diop en numéro 9 et le retour d'Hicham Boudaoui en milieu relayeur pour repositionner Morgan Sanson plus haut. Compo qui n'a pas vraiment porté ses fruits, on va le voir tout de suite. Dans les top flops, c'est parti. Allez, on commence avec toi, Nico. Tu as voulu mettre à l'honneur un joueur ce soir, donc déjà bravo pour ça. C'est quand même, c'est pas facile. Et on va parler de Jonathan Clauss ce soir.
Ouais, Jonathan Clauss, parce que c'est le seul joueur, on l'a déjà dit, qui est au niveau dans cette équipe. Je pense que hier, malgré la débâcle, il peut finir à 2 ou 3 passes décisives si devant les attaquants, ou du moins les joueurs qui reçoivent ces ballons, ne croquent pas. Il fait des courses, il est généreux, il fait pas tout bien évidemment, mais c'est le seul, quand même, je trouve, qui peut sortir la tête de l'eau dans cette équipe. Et qui est capable voilà, d'aller chercher plus haut, parce que le reste, c'est catastrophique.
Catastrophique, dont Melvin Barre aussi, qui a été le pire, entre guillemets.
Ça a été Boudaoui, je pense. Ouais. Mais Boudaoui, j'ai même plus envie d'en parler, tellement je suis écœuré.
Il n'y a rien à dire, de toute façon.
Je pense que mon dégoût est à la hauteur de l'amour que j'avais pour lui, si je peux dire ça comme ça. Mais Melvin Barre.
De l'amour à la haine, en fait.
Voilà, complètement. Je suis déçu que ça se termine comme ça au bout de 7 ans. Je trouve même que c'est un manque de respect par rapport à ses coéquipiers, par rapport au club, par rapport aux supporters. J'en dis pas plus. Ouais. Mais Melvin Barre, ouais, malheureusement, il est fautif sur beaucoup de situations hier. On peut pas lui reprocher son envie, c'est un joueur qui ne triche pas, mais je trouve quand même que cette saison, il est en dessous. Alors ça s'explique par le contexte, évidemment. Mais c'est vraiment pour sortir un joueur du lot, parce qu'il mériterait tous d'y être.
Un top audacieux pour essayer de se régler, c'est Yevan Diouf.
Ouais.
Il a pris 4 buts quand même.
Oui, mais c'était juste histoire de marquer le coup et de dire voilà, est-ce qu'il faut sortir un top? C'est très compliqué. Je vais sortir celui qu'on a pris 4. Voilà, parce que Yevan Diouf, malgré tout, il évite le 5-0 avec le pénalty arrêté. Qu'il est dans une situation pas évidente où il est en concurrence avec un Maxime Dupé. Et finalement, je pense que voilà, lui aussi, c'est pas facile pour lui. Et puis devant lui, il a des joueurs, comme je le disais tout à l'heure, très jeunes. Donc c'est pas évident non plus. Il est pas le seul fautif, loin de là. Et puis quand on regarde les buts dans le détail. C'est quand même compliqué hein, de les arrêter, peut-être sur le quatrième à la limite. Voilà, j'ai voulu le mettre en avant, Yevan Diouf, parce que je voyais personne d'autre. Tout simplement, peut-être, Jonathan Clauss, bien meilleur que l'autre latéral hier. Melvin Barre, en l'occurrence, qui lui a vraiment vécu une soirée cauchemardesque, mais c'était dur d'en sortir.
Alors on attend votre deuxième partie sur Hicham Boudaoui, flop du soir.
Hicham Boudaoui, moi, ça va être très rapide. C'est-à-dire qu'on l'attendait depuis un petit moment. Voilà, en début de saison, on disait il va revenir, il va nous apporter. Puis en fait, hier, j'ai essayé, quand je commentais, je crois que j'ai jamais dit le nom Boudaoui, je ne l'ai pas sorti quasiment. Enfin, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du match. Et d'ailleurs, il est sorti très rapidement. Voilà, en parlant des tops, j'aurais pu citer, pourquoi pas, Boudache, qui est très jeune et qui a failli marquer d'un beau retourné. C'était aussi symbolique, mais. Voilà, Boudaoui, pour moi, c'est vraiment le gros flop.
Rapidement,
ouais, sur Boudaoui, déjà, je comprends pas le choix de l'avoir mis titulaire.
Ouais.
Il le désingue un petit peu quand même en conférence de presse dans la semaine en disant que il vient, il disparaît à l'entraînement, on sait pas trop ce qu'il en est de lui physiquement. Et il le met 3 jours après, donc ça fait aussi partie des choix de Claude Puel depuis un moment qui peuvent poser question.
Hicham Boudaoui, Marco, qui aurait déjà voulu partir cet été. Le club était d'accord pour cet hiver, mais n'a pas trouvé d'offre assez intéressante, ce qui fait que là, il reste. Et au final, il est l'ombre de lui-même sur le terrain. Vous en pensez quoi, vous, de cette attitude, Marco, de joueur qui va terminer son aventure à l'OGC Nice assez piteusement?
Mais c'est toujours la problématique de quand peut-être lui-même il envisageait de partir, donc il avait intérêt d'un autre côté. Et à la fin, il va rester et il va terminer la saison, effectivement. Pas comme peut-être sûrement les supporters le méritaient de voir, et lui-même. Et tout le monde individuel et délicat à comprendre, parce que des fois, on donne des analyses sans savoir, effectivement, après, à l'intérieur du club ou de l'équipe, qu'est-ce qui se passe.
Ça vous est arrivé, ce genre de situation, où vous vouliez quitter un club et... Voilà, peut-être les derniers mois,
j'étais assez tranchant dans les décisions. C'est-à-dire que une fois que j'avais décidé quelque chose, c'était vite fait communiqué. Et ça, par contre, enlever la partie professionnelle. C'est-à-dire que sur mon deuxième année à Paris, j'avais décidé au bout d'un mois du début de la saison de partir à la fin de la saison. Mais ça ne m'a pas empêché d'être à 100% pour le club.
Et on le rappelle, vous avez joué sous Claude Puel, c'était à Monaco. On va en parler de Claude Puel tout de suite dans le Focus. Focus spécial maintien, on avait entrevu du mieux avec Claude Puel la première mi-temps de Lyon, le derby, la victoire à Nantes ou encore la Coupe de France. Reste qu'au niveau comptable, ça ne va toujours pas mieux. Une victoire en 9 matchs de Ligue 1 pour l'actuel entraîneur du Gym, 0,78 points de moyenne. C'est pire que les 1,06 sous Francaise. Les deux dernières prestations laissent même présager de gros doutes sur cette fin de saison. Notamment, on l'a dit, dans l'envie et l'implication. Messieurs, je vous pose la question, est-ce tout simplement la fin de l'effet Puel? Oui ou non, et après on en parle juste après. Nico?
Alors, je vais te dire non.
Seb?
Non plus.
Petit non.
Ouais. Quand on regarde les chiffres, je dirais un petit oui aussi quand même, entre les deux.
Plutôt oui alors.
Allez, petit oui, ouais, quand même, parce que ouais, ça allait mieux au début, et puis après, ouais, ça va vraiment bien. Oui. Allez,
Marco?
Oui.
Dire qu'il n'y a plus d'effet Puel, c'est difficile, mais parce que quand on change d'entraîneur, il y a toujours un effet immédiat. Sur les premières deux matchs, on voit des choses. Et c'est vraiment difficile après penser que voilà, quand on regarde les statistiques, c'est sûr que c'est dramatique,
c'est insuffisant.
Ouais. C'est insuffisant. Donc en vérité, il n'y a jamais eu effet. Parce que c'est pas parce que tu fais le premier match bien qu'il y a un effet. Non, l'effet, c'est si ça dure à long terme.
Sur les résultats
parce que
aussi.
Ça m'est arrivé moi aussi de prendre des équipes mal. Et il y a tout de suite un effet immédiat parce que les joueurs, pour X raisons, on a révolté tout ça. Ils ont l'impression que tout ça change. Donc pour moi, il n'y a jamais eu l'effet de Claude. Comme pour tous les entraîneurs, que quand ils arrivent, ils font bien un ou deux matchs. Et je ne dis pas que ça dépend de lui, et après, il n'y a plus rien. Donc, on ne parle de rien.
Il n'y a jamais eu d'effet aussi,
bah non. Ouais. En fait, avec du recul, on s'en rend compte. Pourquoi on était euphorique au début? Parce qu'on passe d'une situation qui était pire que catastrophique au retour du tandem River, Cohen, Puel, des hommes qui aiment le club. Donc forcément, on a décuplé toutes les petites émotions positives qu'on a pu vivre à ce moment-là. Mais on se rend compte avec du recul que l'effet Puel, c'est finalement pas grand-chose. Et encore une fois, c'est à mon sens certainement pas de sa faute. Mais il n'y a pas eu d'effet Puel. Comptablement, c'est encore pire. Je trouve même qu'en termes de jeu, c'est encore pire qu'avant sur ce qu'on voit sur ces dernières semaines. Donc, non, il n'y a pas eu d'effet Puel.
Il faut parler plus de l'effet des changements d'entraîneur. Ouais, ouais. Que plus de Puel,
Pour qu'il y ait vraiment un effet Puel, il aurait fallu qu'une infirmerie peut-être un peu moins remplie aussi, parce qu'il n'a pas été aidé quand même par ça. Je pense qu'il y a peut-être une illusion à effet Puel avec les résultats en Coupe de France, mais si on les regarde dans le détail, ça a été chaque fois à l'arraché.
On est miraculeux
face à une Ligue 2 Montpellier. On arrive à battre Saint-Etienne avec beaucoup de chance. Nantes aussi. Lorient, il n'y a pas eu un tir cadré. Donc en fait, c'est aussi le fait qu'on s'en sort bien en Coupe de France qui permet d'un tout petit peu se dire c'est pas si mal. Mais quand on regarde au fil des semaines, c'est de pire en pire. Quoi.
Qu'est-ce qui vous apporte en tant que joueur, Claude Puel, Marco? Vous nous dire ce qui se passait un peu dans les coulisses à l'époque, sur quel point il apporte et il est différent des autres, Claude Puel.
Mais Claude, déjà, moi je l'ai connu quand lui commençait entre guillemets à être vraiment l'entraîneur professionnel, parce que c'était son première année avec l'AS Monaco, et bon, d'ailleurs il a gagné tous les championnats. Ouais. Mais il avait aussi une sacrée équipe, et ça c'est, il faut pas oublier. Mais par rapport à Claude c'est un grand professionnel, c'est un grand travailleur, mais ça c'est reconnu. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui il a comme qualité le fait de pouvoir construire dans un temps nécessaire pour avoir effectivement l'effet pour elle. Je crois qu'on l'a vécu, le premier mandat de Claude, il a construit quelque chose de très solide, de très cohérent, mais ça demande du temps et ça demande... Et surtout, voilà, aussi un choix des joueurs qu'ils partent dans ses principes. Je ne pense pas que Claude soit vraiment l'entraîneur qu'il puisse intervenir d'urgence et changer complètement
les
choses.
Pour vous, ce n'est pas l'homme de la situation, Claude Puel, Marco?
Par ma connaissance, par les caractéristiques que lui a en tant qu'entraîneur, j'ai dit que c'est vraiment un très bon entraîneur.
D'accord. Peut-être plus à Antoine Comboiré ou à Pascal Duprat. pour ce genre de...
habitués à ces missions.
Oui,
par
exemple. Comme ça, c'est ça.
Habitués à ces missions, ouais.
On va l'écouter d'ailleurs, Claude Puel, qui a commenté la situation actuelle du gym. C'était dans conférence de presse d'après match, après elle.
Il y a pas mal de choses depuis mon arrivée qui ont été intéressantes avec des matchs, je l'ai dit, de bonnes factures qui n'ont pas été récompensées. Celui-là, dans l'ensemble, ne l'était pas. Et de ne pas être récompensé, ça touche tout le monde. Il faut repartir à chaque fois. Mais c'est comme ça. C'est notre, je dirais, destin sur cette deuxième partie de championnat. Rien ne sera épargné.
On se souvient, Nico, que l'OGC Nice avait réagi après la claque à Toulouse 5-1. Il y avait eu d'abord ce premier match d'Europa League gagné contre les Goal Eagles et puis l'enchaînement face à Nantes en championnat. Est-ce que vous les sentez capables de reproduire ça, les joueurs de Claude Puel?
Pour moi, ça va dépendre du retour d'Eli Wahi déjà, parce qu'il avait fait énormément de bien. J'avais l'impression qu'il avait libéré tout le monde. Parce que je pense que dans les têtes aussi, ça doit être... un soulagement de savoir qu'il y a quelqu'un devant, s'il y a une occasion, il va la mettre au fond. Parce que hier, malgré le score, en fin de match, les ratés, c'est incroyable. Et ça démontre bien un manque de confiance. Et mine de rien, je pense que ce genre de raté, peu importe la physionomie du match, bah, dans les têtes, ça joue. Parce qu'on se dit, on a des occasions, on est incapable de les mettre. Tandis que si tu sais que tu as Eli Wahi devant qui va la mettre, bah, tu joues plus libéré, avec plus de confiance, avec moins de pression. Et ça peut libérer tout le monde autour. Donc je pense que son retour va être primordial pour la fin de saison.
Il n'y a peut-être pas eu d'effet Claude Puel, mais il y avait eu un effet Eli Wahi quand il est arrivé. Ça, c'est clair. Ça, c'est peut-être l'homme fort de cette année. Malheureusement, il n'a pas joué suffisamment. Ouais.
Effectivement, ça, c'est un élément clé. On va terminer cette émission avec vous, Marco. On s'en souvient, l'année dernière, le Stade de Reims s'est allé jusqu'au Stade de France pour terminer sa saison en finale de Coupe de France. Quelques jours plus tard, en Ligue 2, après les barrages, ce qui les avait un peu déstabilisés aussi dans le sprint final du maintien. Est-ce que ce scénario d'une potentielle finale de Coupe de France, est-ce que ça ne nuit pas aussi au maintien et aux affaires courantes du championnat?
Moi, je crois que c'est deux choses différentes. Je pense que... Et ils peuvent profiter de l'énergie, de la positivité de ces compétitions-là. C'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, au-delà de la qualité qu'on a analysée par rapport à les parcours en Coupe de France, de gagner quelque chose, ça fait toujours bien. Et ça peut retomber en positif pour le championnat.
Effectivement, pour le gym. Avant de se quitter, on s'intéresse au classement de cette Ligue 1. Le mano à mano, toujours entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Avantage PSG, toujours, mais avec désormais un point qui sépare les deux formations. On retrouve le GC Nice incrusté dans la deuxième partie de tableau à la 15e place avec 24 points. 5 de plus, désormais, que le barragiste auxerrois. Nantes et Metz ferment la marche. Quelle va être la suite pour l'OGC Nice? On va s'y intéresser dans un instant avec le calendrier du gym au programme. Le déplacement importantissime à Angers samedi prochain à 19h, à suivre la réception du Paris Saint-Germain à domicile samedi 21 mars à 21h05. Strasbourg et Le Havre complètent le programme. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné ce soir. C'est la fin de Copéglon. On se retrouve lundi prochain à 19h. D'ici là, passez une très belle semaine. Bye bye.